Le bystander effect.
Effectivement, je connaissais ce truc, mais pas la définition.
Je pense que j'ai déjà vécu aussi collectivement. Enfin, en tant que meuf, tu te fais souvent agresser, et si t'es dans une rame de métro, par exemple, bah, personne ne va réagir.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez la radio et c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'au moins en ce moment vous n'êtes pas planté devant un écran, à moins que vous nous écoutiez sur votre téléphone en regardant le logo France Inter fixement, auquel cas je ne peux vraiment rien faire pour vous. Journée spéciale, France Inter crève l'écran, oblige, zoom zoom, se met au diapason en zoomant aujourd'hui sur un phénomène dont on a parlé en marge du drame de Cran Montana, ce bar où un incendie a fait 40 morts le soir du réveillon, l'effet bystander. Effet témoin en français, un effet de sidération qui fait que lorsque vous êtes plusieurs à assister à un drame, une agression, un accident, vous avez tendance à rester pétrifié plutôt qu'agir, aller porter secours. D'où le fait qu'à Cran Montana, certains aient préféré filmer ce qui se passait plutôt que d'intervenir à une toute autre échelle. Bien moins dramatique évidemment, puisque Manon s'en est finalement sortie. Nous avons eu une illustration frappante de cet effet témoin jeudi dernier, quand soudain, en pleine chronique, Manon s'est étouffée après une quinte de toux.
C'est pas vrai.
Le bon réflexe aurait été d'arrêter l'émission et d'appeler les secours, voire de placer Manon en position latérale de sécurité. Non! Le premier réflexe de Quentin a été de rigoler bêtement en s'exclamant « Bah alors, il a avalé de travers, Grégory de Marchal ?» Quant à Cyril, qui est pourtant investi d'un devoir de responsabilité depuis qu'il a été promu producteur délégué à la coordination bidule de Zoom Zoom Zen. Vous le savez déjà, il a préféré dégainer son iPhone pour capturer ce qu'il pensait être les derniers instants de la Marianoche. Là, on ne peut même plus parler d'effet témoin, mais d'effet enflure. Alors qu'est-ce que l'effet témoin? Comment y échapper? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter crève l'écran. Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Et bonjour Hélène Romano.
Bonjour à toute l'équipe.
Merci d'être avec nous Hélène, vous êtes psychothérapeute et spécialiste des traumatismes. Vous êtes en duplex des studios de nos confrères d'ici Saint-Étienne-Loire. Vous analysez depuis un moment les effets des écrans et les comportements qui en découlent. On va comprendre avec vous ce qui provoque l'effet bystander, effet témoin en français, en cette journée spéciale écran sur France Inter. Juste le temps de vous présenter mes fidèles complices, à commencer par celle qui ne pourrait pas vivre sans son écran, puisqu'elle a effectivement une double vie. Elle est en trouble avec son conjoint CV et avec ChatGPT. ChatGPT à qui elle parle d'ailleurs plus qu'à son mec, lui confiant ses espoirs. Peut-être que les acteurs de Heated Rivalry sont hétéros en vrai, et ses doutes. Mais non, c'est sûr, ils sont vraiment gays, sinon ils m'auraient déjà follow sur Insta.
Ouais, au moins.
Manon Mariani, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Chaque après-midi, Manon, vous nous envoyez une petite pièce jointe.
Oui, aujourd'hui, des vidéos TikTok, elles cartonnent et elles mettent notamment en avant cet effet témoin à travers des situations dans l'espace public.
Hélène Romano, de l'autre côté de la table, il a la chance de compter parmi ses amis un être exceptionnel nommé Polo. Un de ces êtres humains qui ne connaît pas l'effet bystander. Quand Polo voit quelqu'un en danger, Polo ne reste pas les bras croisés, il agit. Et, le cas échéant, il suce. Alors, ce jour où Quentin était piqué par un frelon, Polo n'a pas hésité une seconde, il a sauté sur son ami pour aspirer le dard de la bête et sauver Quentin de l'infection. Le micro-trottoir du jour lui est dédié. Brave Polo. Tout ça est vrai, quoi.
Oui, bonjour,
Cyril est mort de rire.
Évidemment, il y a l'image.
C'est vraiment parce que je l'ai lu, ça. Hier, je pense, je riais déjà en le lisant et en vous entendant.
Qu'est-ce que vous avez lu? Tout le monde sait que j'improvise chaque émission et que les bons mots me viennent comme ça, Cyril. Ouais, chacun le sait. Je suis le Edouard Baird du service public. Bon, Quentin.
J'en profite pour saluer mon ami Polo.
C'est un bon compagnon, Polo.
Et forcément, dans la rue, le thème vous parle. On y est tous confrontés au bystander effect. Pourquoi? Parce que on n'agit pas. Parfois, on est tétanisé. On ne sait pas ce que l'autre va faire. Peut-être que les autres vont agir à notre place. On a parlé du métro. On a parlé d'agression. On a évoqué Cran Montana en Suisse. C'était pas le plus drôle des micro-trottoirs, mais ça dit beaucoup sur notre époque, c'est dans la prochaine demi-heure.
Vers 16h30, alors que vous commencerez à peine à comprendre les implications de l'effet bystander, je vous interrogerai sur d'autres phénomènes psychologiques de groupe, comme l'effet Ringelmann ou encore l'effet H, qui Manon, je vous le dis d'ores et déjà, n'a rien à voir avec vos petites virées à Amsterdam. Bref, ça sera le Zoom Zoom Test.
Oui, mais... Ils s'en souviennent.
Ils s'en souviennent là-bas. Leur chiffre d'affaires a baissé de 50% depuis que vous êtes partis. Juste avant 17h, on retrouvera Harold Barbet. Après 17h, mes papilles en frétillent déjà, on recevra le chef au 18 étoile Michelin, Yannick Aleno. Mais d'abord, Hélène Romano, zoom donc sur l'effet témoin. Déjà, est-ce qu'il y a un lien entre l'effet bystander, donc l'effet témoin, et le voyeurisme?
Au niveau psychique, non. L'effet bystander, c'est vraiment expliquer le niveau d'effraction psychique. On est face à quelque chose qui n'a pas de sens, qui est complètement indicible, quelque chose d'extrêmement violent. On est plusieurs et on va se porter les uns les autres en disant que l'autre va intervenir. C'est vraiment la notion de groupe. Mais on est psychiquement totalement dans un état d'effraction. On n'a plus la capacité de réagir. Et j'aurais envie de dire qu'on est passif à l'insu de notre plein gré. Ce qui n'est pas du tout de la lâcheté, c'est pas du tout intentionnel comme le voyeurisme. Le voyeurisme, c'est vraiment quelqu'un qui volontairement va avoir la notion de filmer quelqu'un qui souffre, qui n'est pas bien et qui trouve du plaisir à voir l'autre souffrir. On n'est pas du tout sur le même registre.
Pour y voir plus clair sur un sujet complexe, il faut toujours remonter à l'origine, aux sources du phénomène. Et une rubrique fait ça admirablement. Depuis 665 émissions aujourd'hui, cette chronique, c'est évidemment le...
D'où ça sort ? Mais d'où ça sort ? Ce truc.
C'est pour ça qu'il y a des gens qui dansent de l'autre côté de la radio. Comme ça.
C'est quoi, on n'a jamais relevé les paroles, ce truc bizarre qui nous transporte.
Qui nous transporte, mais c'est exactement ça. C'est vraiment le d'où ça sort.
C'est Cyril.
C'est Cyril. Cyril Lacarrière.
C'est Cyril.
Dites-nous, cet effet témoin, l'effet bystander, d'où ça sort?
Imaginez, vous marchez dans une rue bondée, soudain quelqu'un se fait agresser devant vous, instinctivement, vous figez. Vous regardez autour de vous, il y a 10 personnes, 20 personnes qui regardent aussi, et comme tout le monde regarde sans bouger, eh bien vous ne bougez pas non plus. Vous vous dites intérieurement, quelqu'un a sûrement déjà appelé la police ou quelqu'un va intervenir. C'est ce qu'on appelle l'effet bystander, qu'on pourrait traduire par l'effet du témoin. Et comment est apparue cette notion, Mathieu?
Je vous pose la question parce que vraiment, on se la pose tous.
Voilà, et bien elle sort d'une nuit d'horreur à New York. Nous sommes le 13 mars 1964, à 3h du matin, dans le quartier du Queens. Une jeune femme de 28 ans rentre du travail, elle est attaquée au couteau au pied de son immeuble. L'agression dure longtemps, le tueur revient même plusieurs fois sur place. Deux semaines plus tard, titre du New York Times. 37 témoins ont vu le meurtre et n'ont pas appelé la police. L'article raconte comment les voisins ont allumé la lumière, ont regardé par la fenêtre et sont allés se recoucher. L'Amérique est sous le choc. On parle de décadence morale, de la froideur des grandes villes, de la déshumanisation. 4 ans plus tard, 2 psychologues déconstruisent la théorie des monstres. Et si ces voisins étaient en fait des gens normaux, piégés par la situation? Ils lancent une série d'expériences fascinantes. Le résultat est sidérant. Si vous êtes seul avec les victimes, vous intervenez dans 85% des cas. Si vous êtes en groupe, l'intervention chute à 31%. Une sorte de dilution des responsabilités. Quand vous êtes 10 à pouvoir intervenir, votre cerveau fait un calcul inconscient. Pourquoi moi et pourquoi pas lui? Et c'est comme ça que l'inaction devient la norme sociale, et c'est le début de notre histoire.
Merci Cyril. Hélène Romano, cet effet bystander s'est malheureusement illustré récemment, on l'a dit, lors du drame de Grand Montana. On a vu beaucoup de témoins prendre leur téléphone portable pour filmer l'incendie plutôt que d'aider les victimes. Pourquoi donc, face à l'urgence, on reste comme ça, passif?
Alors pour Grand Montana, comme ça a été très diffusé, il y avait deux niveaux. Il y avait les impliqués qui étaient vraiment dans le bar du Constellation et qui filmaient. Il y avait les gens à l'extérieur qui filmaient. C'est pas le même niveau d'exposition psychique, de d'effraction. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'automatisme. Je ne suis pas en capacité d'être face à la réalité. J'essaie de me la réapproprier en utilisant le téléphone portable. Et je vais me protéger de l'horreur que je vois sous mes yeux. Alors quand on est à l'extérieur, chez soi, derrière la télé ou à distance, on se dit, mais comment se fait-il? Pourquoi les gens ne sont pas intervenus? C'est lâche, c'est pas courageux. Mais il faut bien se mettre dans la situation où ces gens-là, ils sont face à quelque chose d'hallucinant, d'incroyable, d'inintelligible, qui fait qu'on ne fonctionne pas psychiquement comme on fonctionne quand on a tous les repères habituels.
Et là, on comprend que c'est quelque chose qui est ancré assez profondément en nous, que c'est quelque chose d'assez normal. Néanmoins, face à une scène comme ça de drame, il y a certaines personnes, je crois qu'il y a un jeune footballeur qui s'est jeté dans les flammes pour aller sauver sa copine, il y a quand même certaines personnes qui dépassent cet effet bystander pour se jeter dans les flammes, en l'occurrence. Est-ce que comment ça, on l'explique, ça? C'est quelque chose de personnel ou c'est une... Il y a un mécanisme psychique qui permet de dépasser l'effet bystander?
Alors, on l'explique par le fait que nous ne sommes pas tous les clones les uns des autres, et la singularité de chaque individu fait qu'on est différent, on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas non plus la même exposition, la même expérience de vivre dans des situations compliquées. Les sauveteurs, les militaires qui interviennent vont souvent être plus en capacité de faire face à des drames comme ça parce qu'ils sont entraînés, habitués. On peut avoir dans les situations de secours extrêmes des gens qui vont être en ce qu'on appelle en conduite automatique, sans que ça soit très raisonnable et très raisonné, qui vont se jeter dans l'eau froide, retourner dans l'incendie, sans forcément bien raisonner le danger, et qui certaines fois vont pouvoir sauver, mais qui certaines fois vont mourir. Donc ça peut être aussi une conduite automatique, une forme de court-circuitage, je vais faire quelque chose, je sauve, quitte à mourir, sans réfléchir au risque que je prends. Donc il y a des situations très variables, mais on réagit différemment, parce que l'être humain est pluriel, et heureusement on n'est pas tous pareils.
Est-ce que c'est un manque, entre guillemets, de courage, ou c'est tout simplement aussi de la peur?
Alors moi je suis psy, j'aurais tendance à dire que les personnes qui ont été figées derrière leur téléphone, incapables de s'en détacher, étaient plus, je mets des guillemets, blessées psychiquement, comme une effraction, une blessure, la blessure psychique, elle ne se voit pas, en incapacité d'agir. C'est très différent des personnes qui ont rediffusé ces images sans limite plusieurs jours plus tard.
Sur les réseaux.
On n'est pas, là, on est sur du voyeurisme. Vous voyez, on n'est pas sur le même niveau.
Zoom, zoom, zen. France Inter crève l'écran. Mathieu Noël.
Tu m'aides pas là? Non, pas là, non. Zoom cet après-midi sur le phénomène bystander, ou comment, vous l'avez la référence
à bronzés fondus ski? Non, mais le rapport avec le sujet surtout.
Exactement, oui. Mais tout ça est finement étudié. Bon, après, c'est peut-être mon interprétation qui laisse à désirer.
C'est bien écrit.
Zoom cet après-midi sur le phénomène bystander, ou comment l'effet de groupe nous empêche d'intervenir face à une agression ou un danger. On est toujours avec la psychothérapeute spécialiste des traumatismes, Hélène Romano, en duplex des studios d'ici Saint-Étienne-Loire. Hélène, on l'évoquait il y a un instant, cette journée spéciale écran sur France Inter. Est-ce que les téléphones portable, est-ce que les réseaux sociaux amplifient encore un peu plus cet effet bystander?
Alors, on pourrait dire oui s'il faut répondre rapidement. Là, vous m'avez dit tout à l'heure, faut faire des réponses courtes, mais je vais quand même juste un petit peu développer. L'être humain, il y a une dimension qui est fondamentale, c'est l'altérité, c'est-à-dire le fait de reconnaître l'autre comme un autre que soi-même, le respecter, faire attention. C'est ce qui permet de développer l'empathie. Et l'écran va faire un filtre par rapport à ça. C'est comme un filtre de désaltérité. Ça fait écran avec la réalité. Ça fait écran avec l'autre. On peut pas repérer un tas de choses dans la communication comme lorsque l'on est en présentiel, en direct. Donc, on c'est que les écrans ont ce biais de, ils permettent beaucoup de choses, mais au niveau relationnel, de ne pas permettre un développement de l'empathie et le respect de l'altérité. Mmh. Et comme ça a été rappelé tout à l'heure, le bystander effect, c'est cette dilution. Plus on est nombreux, plus on va laisser les autres intervenir. Enfin, on va se dire que les autres vont intervenir et moins on va se sentir concerné. Donc l'écran donne l'illusion qu'on est nombreux. On diffuse de façon infinie, il n'y a pas de limite aux personnes qui peuvent voir les images, et ça peut donner cette illusion de pas être seul et du coup d'avoir des milliers de personnes qui regardent. Donc je suis pas seul. Appréhension de l'évaluation qui est totalement limitée, diffusion de la responsabilité, et là en effet on peut considérer que ça majore le risque d'avoir un effet témoin.
Mais est-ce qu'on peut pas aller plus loin, Hélène Romano, si je poursuis le fil de votre réflexion? Est-ce que même quand on est tout seul avec son téléphone et qu'on filme un événement gravissime, est-ce que le fait de le voir dans son écran, de le mettre quelque part dans son écran, ça fait pas comme une protection pour nous? On est tous habitués à voir des images violentes ou sur un écran. Donc là, comme c'est en vrai, ça se passe en vrai, on est terrifié, on le met dans notre écran pour le renvoyer au fait que c'est dans un écran. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis très clair, mais est-ce que ça
non,
nous protège?
Non, si, c'est clair. Je vous enverrai pas en thérapie, enfin pas tout de suite. Non, c'est très clair. Ça permet de se réapproprier la réalité, de pas être passif. Vous êtes face à la mort, face à l'horreur, c'est insupportable. On n'est pas passif. Du coup, je vais filmer. Au moins, je fais quelque chose. Et j'ai cet écran par rapport à l'horreur. C'est tout à fait juste.
Vous parlez d'effet de contamination. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Alors, l'effet de contamination, c'est vous êtes face à quelque chose d'horrible, vous essayez de vous protéger, mais c'est trop horrible et ça va venir vous paralyser, vraiment psychiquement vous contaminer, comme quand on est pris par les réactions de l'autre, par l'horreur de ce que l'on peut voir, et du coup on n'arrive plus à réagir et à être avec ses propres ressources. La contamination psychique, c'est ce qui fait que je vais me mettre à fonctionner comme si j'étais au milieu du pire des flammes de Crans-Montana, au milieu du pire. Et du coup, je ne vais plus être en capacité d'être moi-même avec mes propres ressources pour agir de façon raisonnable, intervenir, protéger, sécuriser.
On parlait de ceux qui filment et qui publient après ce qu'ils filment sur les réseaux notamment. Est-ce que c'est la recherche aussi de valorisation personnelle, être absolument le premier à publier des images spectaculaires entre guillemets ou horribles de manière complètement désinhibée du coup?
Alors là, on est sur un autre niveau. Vous avez tout à fait raison de le souligner. On l'a vu vraiment beaucoup à Crans-Montana, avec en plus des mineurs. Il y a des mineurs de 13 ans qui ont été invités sur des plateaux télé. Là, ça pose des questions éthiques qui seraient probablement à discuter sur un autre sujet. Mais on a des jeunes, ou même des moins jeunes. Il y a une forme de fascination des médias, avec le fait de s'approprier la réalité, mais aussi d'avoir une heure de gloire. Et on transforme des drames en télé-réalité. C'est la fascination, la spectacularisation du trauma. J'avais fait un livre avec Boris Cyrulnik à ce sujet-là pour dénoncer cette spectacularisation de l'horreur. On est dans une victimophilie sans limite, c'est tout à fait juste.
Vous qui êtes spécialiste, Hélène, des traumatismes, est-ce qu'on peut savoir à l'avance comment on réagirait face à un imprévu dramatique? Est-ce qu'on peut s'y préparer? Est-ce que vous, par exemple, vous pouvez déterminer qui pourrait sauver des gens et qui serait plutôt frappé de sidération, victime de l'effet bystander?
Alors, je vais être plus prudente. Comment on sait que se préparer psychiquement, ça permet de plus facilement faire face. Vous avez des professionnels, les sauveteurs, les urgentistes du SAMU, les pompiers, les militaires.
Ils ont des formations.
Des personnes qui
pour ça.
Où il y a des formations, il y a des différents diplômes universitaires qui existent en formation continue pour former justement à la gestion des situations extrêmes, arriver à faire face et à ne pas être soi-même en tant qu'intervenant et secouriste, sauveteur, en situation de stress automatique. Parce que de conduite automatique, vous imaginez bien que c'est des choses compliquées qui sont arrivées dans des drames, des attentats ou d'autres catastrophes. On a eu des collègues qui ont été en conduite automatique parce que psychiquement, c'est beaucoup trop violent. Par contre, quand on est entraîné, on fait face davantage, alors en immédiat on fait face davantage, ça ne préserve pas, ça ne protège pas du risque de ce qu'on appelle le traumatisme vicariant, c'est-à-dire en seconde intention, plusieurs semaines, plusieurs mois plus tard, on peut être soi-même submergé par des troubles post-traumatiques.
On continue de parler avec vous Hélène de l'effet bystander. Lui, il s'en voulait énormément de ne pas avoir bougé un petit doigt quand Manon s'étouffait en direct l'autre jour. Il en était même arrivé à se dire qu'il était un lâche.
Mais
c'est fou, il est venu me voir. C'est le premier qui est venu me voir.
Ouais. Voilà. Il est venu vous voir.
Bah oui, mais c'est parce que Quentin, il est gentil.
Voilà. Ah, alors là, il y a beaucoup de bêtises qui ont été prononcées sur cette émission en 665 numéros, mais Quentin, il est gentil, est la plus grande fake news que nous ayons jamais eue. On passe à votre micro-trottoir.
Je suis allé à son chevet.
Son chevet, elle était déjà alitée.
Elle était couchée.
Elle était déjà alitée dans le couloir.
Sur la moquette.
Quentin, vous allez interroger les gens pour savoir si eux aussi connaissaient cet effet bystander.
Je suis sous un arrêt de bus, assis sur le petit banc beige. C'est ici que je rencontre Mila, elle a 36 ans, toute vêtue de noir, veste noire, jean noir, sac à dos noir, lunettes de soleil noir. Elle découvre le thème du jour de Zoom Zoom Zen.
Le bystander effect. Effectivement, je connaissais ce truc, mais pas la définition. Je pense que j'ai déjà vécu aussi collectivement. Enfin, en tant que meuf, tu te fais souvent agresser et si t'es dans une rame de métro, par exemple, personne ne va réagir.
Elle me raconte une agression sexuelle qu'elle a vécue dans le métro.
Ouais, rame de métro, heure de pointe, pas vraiment le soir, vraiment blindée. Vieux frotteur, une bite collée à soi, tu lui dis « S'il vous plaît, monsieur, retirez votre pénis » et personne ne fait rien. Autour de soi, il y a 15-20 personnes. Une jeune fille au loin qui m'a lancé un regard en me disant « Ouais, je suis là peut-être, mais va le savoir. » Et sinon, les autres hommes fuyant, voire en rigolant, quoi.
Et pour elle, le problème ne va pas se régler comme ça.
Je pense que l'école n'aide plus non plus à gérer ou à construire l'empathie. Et que petit à petit, ah, mais est-ce que j'ai loupé mon bus? Et voilà, ça, c'est parce que je me fais avoir, j'aime bien passer du temps avec les gens. Mais ouais, c'est ça, en fait, on construit plus l'empathie, on construit plus en groupe, et forcément, on perd en observation de l'autre.
Alors, est-ce que l'époque est à l'individualisme dès la cour de récré? Je croise maintenant la route de ce monsieur, cigarette à la main, les cheveux taillés très courts, un manteau gris d'hiver.
Bonjour, bonjour.
Quel est votre prénom à vous?
Cyril.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous?
Agriculteur, dans le Maine-et-Loir.
Il plisse les yeux quand je tente de lui faire lire...
Oh, moi et l'anglais, ça fait deux.
Vous voulez me le redire, essayez.
Le bystander effect. C'est un manque de civisme, c'est des choses qu'on ne devrait pas voir.
Est-ce que c'est si facile d'agir? Parce que c'est pour ça qu'on fait aussi cette émission. Plus il y a de monde, plus on se dit c'est l'autre qui va y aller.
Je pense qu'il y a ça aussi, ouais. Mais je parle en connaissance de cause dans nos campagnes, je pense qu'on est plus solidaires. On a toujours un œil sur la personne d'à côté, ou voilà... Je sais pas en ville comment ça fait, mais quand on voit les informations et comment ça se passe en ville, c'est déplaisant, quoi. On s'arrête, nous. Je sais pas. C'est une éducation de campagne, peut-être, qui est comme ça. Mais...
Alors, y a-t-il une différence entre la ville et la campagne? Forcément, puisqu'il y a en général moins de monde. Un accident, un malaise en pleine rue, un incendie chez le voisin. Cyril me parle de la notion de regard, qui ne serait pas la même en zone rurale. Je lui parle du drame de Crans-Montana, la nuit de la Saint-Sylvestre. Il a été choqué par l'attitude de certains jeunes.
Bah, ils auraient dû aller casser les vitres pour que les gens y sortent, quoi. Au moins des choses, quoi. Quand on est à l'extérieur, on pète les vitres extérieures pour que les gens puissent sortir, quoi. On n'attend pas que dans des cas comme ça, on est surhumain un peu. On prend une chaise ou quelque chose et on tape dessus, quoi. On cogne, hein.
Est-ce qu'il vous choque, c'est qu'ils aient sorti leur portable?
Ouais. Ouais. Que d'aller aider les gens, ouais, c'est ça, ouais. Que de filmer la misère, c'est honteux.
Je vous présente Stéphanie, maintenant, qui bosse dans la mode et qui cherche un appart. Nouvel avis sur le...
Le bystander effect.
Bel accent.
Alors en allemand, l'allemand c'est ma langue maternelle et on a un terme qui s'appelle civil courage. Et je pense pas que ça existe en français. Par exemple, si dans la rue il arrive quelque chose à quelqu'un, on n'intervient pas, on n'aide pas. Parce qu'il faudrait avoir un peu de courage civil pour intervenir. Et je pense que le bystander effect, c'est peut-être un peu pareil. Bingo!
Eh ouais, bingo, vous l'aviez. Je lui raconte la vie de Cyril envers ces jeunes qui ont filmé au lieu d'agir.
Je pense que déjà, ils étaient très jeunes. C'est une génération qui a grandi avec l'iPhone quasiment. Et je pense qu'on ne peut pas juger jusqu'à ce qu'on ne se trouve pas dans la situation. Mais on ne sait pas ce qu'on aurait fait. On ne sait pas.
Léocadie et Thomas maintenant, 22 ans. Ils se penchent sur...
Alors,
aucune idée.
Pour moi, un bystander, c'est quelqu'un qui attend à côté. Mais je suis pas du tout sûr de ce que je dis.
Et pourtant, c'est ça. Quelqu'un qui attend à côté et qui n'agit pas. Ça n'a pas plu à Thomas qu'on critique les plus jeunes lors de ce drame en Suisse.
Sachant que je sais pas qu'est-ce qu'ils étaient en mesure de faire. Est-ce que effectivement rajouter de la panique à la panique avec d'autres gens qui interviennent, qui machin, est-ce que ça aurait vraiment changé grand-chose? Est-ce que documenter, c'est pas important aussi? J'ai entendu pas mal de gens dire que, enfin, critiquer ça, et je trouve ça un peu indélicat dans une situation aussi tragique, quoi.
Il a dit une chose, ça peut servir aussi de documenter, et c'est un élément auquel je n'avais pas pensé, j'avoue. Dans le cadre d'une agression en public, ça peut même aller plus loin pour son ami Léocadie.
C'est une manière d'agir sans se mettre en danger directement, genre si j'interviens, j'ai des chances de moi aussi me faire agresser. En filmant, j'ai une preuve que je peux après balancer sur les réseaux, quoi, machin.
C'est déjà une forme d'action en soi. Hein. T'es pas passif. Tu fais déjà la démarche d'enregistrer. C'est pas neutre comme.
Ça peut faire peur à la personne, à l'agresseur ou à la personne qui commet la, enfin qui agresse quelqu'un ou qui est violent, machin. Ça peut lui faire peur aussi. Donc ça peut peut-être faire fuir. Enfin, c'est un moyen potentiellement de dissuasion, je sais pas.
Au fond, la question n'est même plus de savoir s'il faut filmer ou intervenir. La vraie question, c'est pourquoi on détourne les yeux? Parce que c'est plus simple, parce que ça évite de prendre un risque, parce que ça permet de rentrer chez soi sans trop y penser, parce qu'on est tétanisé, parce qu'on se dit que quelqu'un va agir à côté avant nous. Le temps de se dire tout ça, on a peut-être déjà perdu un bout de notre humanité.
Pas comme vous, Quentin, qui relevait les sans domicile fixe pendant votre micro-trottoir. Si jamais un tombe à côté de vous,
ça vous est arrivé avec un monsieur dans la rue.
Avec quelqu'un que vous interviewez, vous tous les deux, vous êtes portés à son
secours. On a coupé le micro et on est allé l'aider à se relever.
C'est certainement parce que vous êtes gentil, comme dit Manon.
Bon, là, faut pas abuser non plus. Mais...
Hélène Romano, qu'est-ce que vous pensez de ces deux dernières voix qu'on vient d'entendre? Filmer, c'est déjà agir, c'est pas neutre, nous dit Thomas. Et c'est vrai que dans le cas d'une agression, aujourd'hui, filmer cette agression, évidemment, c'est mieux d'intervenir, mais si on n'a pas la force physique ou si on a peur, la filmer, c'est déjà quelque chose, ça peut faire peur à l'agresseur.
Alors, certaines fois, les agresseurs n'ont pas peur du tout de ce type d'écran, de ce type de film. Pour agresser quelqu'un, il faut souvent avoir quand même un rapport à la transgression majeure, et ces gens-là n'ont pas peur des écrans. Par contre, ce qui était dit de pas se sentir totalement impuissant, de se dire qu'on va quand même pouvoir être utile, ça oui, mais je voudrais juste revenir, Mathieu, sur un point. La diabolisation des jeunes, et comme vous consacrez votre journée à cette question-là, des jeunes et des écrans, c'est toujours un risque de diaboliser une catégorie d'âge. Il y a beaucoup de diabolisation de la jeunesse par rapport à l'usage des écrans et à Cran Spontana. On a des certaines personnes se défouler par rapport à ça. On a des adultes qui filment, regardez tous les bêtisiers de fin d'année, qui filment des personnes en grande détresse, en grande difficulté. C'est pas l'apanage de la jeunesse. Par contre, diaboliser, ça évite de réfléchir et d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ce que vous faites aujourd'hui.
On a entendu Cyril, cet agriculteur dans le Maine-et-Loire, qui dit qu'il y a une différence entre la ville et la campagne. Est-ce qu'on regarde l'autre différemment en zone rurale ou en zone urbaine?
En zone rurale, il y a tout de même un certain nombre de liens, de portage communautaire, d'attention à l'hôte, qui sont probablement plus préservés qu'en ville. En ville, on sait bien, enfin, on voit bien, en ville, c'est plutôt dilué. Il y a des gens qui habitent dans des immeubles qui connaissent à peine leurs voisins. Dans les milieux ruraux, on sait que c'est un petit peu différent. C'est pas forcément mieux, c'est différent. Et encore une fois, essayer de cliver, je pense que c'est compliqué. C'est différent, il y a des choses positives de part et d'autre, mais ça permet aussi de comprendre, là, on en discute en étant extérieur à un drame, mais quand on est dans le drame, on a des réactions, certaines fois, qui sont des conduites automatiques. On ne fait pas forcément ce qu'on ferait si on n'était pas face au drame. C'est vraiment important de le comprendre pour pas juger négativement, parce que si on juge négativement, on n'essaie pas de penser, pas de réfléchir et pas de décrypter.
Est-ce qu'il y a aussi une différence entre les hommes et les femmes? On a entendu une jeune femme parler de son agression sexuelle dans le métro. En tant que femme, on sait que c'est des situations qui peuvent malheureusement et qui arrivent trop souvent. Est-ce qu'il y a peut-être, les femmes sont plus attentives aujourd'hui, notamment après MeToo?
On pourrait dire oui, il n'y a pas d'études à ma connaissance qui le caractérise avec des analyses par cohorte de sexe, homme-femme. Il y a cette attention peut-être plus à la question de l'empathie, de l'attention à l'autre. Et puis surtout, en effet, comme le disait le témoin, il y a beaucoup de femmes qui ont été agressées comme ça dans le métro. Les transports publics, quand on est une femme, c'est quand même très pénible, ça reste très pénible. Il y a plus de femmes que d'hommes agressés, ça c'est une réalité. Donc les femmes sont probablement plus sensibles à cette passivité des gens qui n'interviennent pas que les hommes qui sont moins exposés.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Mathieu, pour le quiz, essaye de faire un truc rigolo, quitte à t'éloigner du sujet, parce que les gens qui se font des nœuds au boyau de la tête, c'est plombant à force. Me disait Cyril, attirant mon attention avec ses mots à lui, sur le fait que ces derniers temps, on avait consacré pas mal d'émissions aux problèmes d'ordre psychologique. Message reçu 0 sur 5, puisque je vous propose aujourd'hui un quiz sur ces effets de groupe qui inconsciemment influencent notre comportement, jouant au Zoom Zoom Test. Oui, c'est un fait, on n'est pas la même personne quand on est au sein d'un groupe que quand on est seul. Par exemple, quand il est seul chez lui et qu'il réécoute le Zoom Zoom Test, parfois Quentin trouve les bonnes réponses. Ne riez pas, Manon, ne riez pas, on ne se moque pas de ce qui n'est pas, au fond, un problème psychologique, psychologique auquel on est tous confrontés, même si certains le gèrent mieux que d'autres. C'est bien sûr le célèbre effet Ringelmann, qui fait qu'on tend à travailler moins dur quand on est dans un groupe que quand on est seul. Le non moins célèbre effet Jean-Luc Reichmann, qui nous pousse à vouloir attirer l'attention des membres du groupe en se livrant à des imitations qui sont au fond embarrassantes pour tout le monde.
C'est la question con ! C'est la question in !
Ou alors avons-nous affaire à l'effet Scatman, quand on perd ses moyens au moment de s'exprimer devant un groupe et qu'on se met à bredouiller.
Ah ! Scatman, non mais non.
Si ! L'effet Scatman ? Oh, mais c'est que vous le faites bien en plus.
Bah oui.
J'ai presque envie de vous donner
comme
un point
Reichmann,
bonus.
Bah oui.
J'ai presque envie de vous donner un point bonus. Réponse A, bien sûr, Manon. L'effet Jean-Luc Reichmann est une maladie orpheline qui ne concerne qu'un seul individu dans le monde, un natif d'Alençon. L'effet Scatman ne touche que les membres de Zoom Zoom Zen le jeudi soir après 4 heures d'enregistrement.
Première victoire pour un équipage comme processus d'émancipation.
Il le fait presque moins bien que vous, Quentin,
oui,
Scatman.
Il avait
une très belle moustache.
Ah, une magnifique moustache, mieux que la vôtre. La bonne réponse était donc l'effet Ringelmann. Effet magnifiquement illustré ici par la chanson Ring My Bell, tube disco sur lequel Cyril avait remporté en 76 le titre de Mister Jean Poutre Apparente au Why Not de Fronto Combo, mais c'est une autre histoire. L'effet Ringelmann, c'est cet effet de groupe qui nous pousse à moins bosser quand on est plusieurs et de façon proportionnelle à la taille du groupe. On comprend donc désormais pourquoi Quentin arrive à 14h au bureau. Ce n'est pas par paresse, mais par souci d'efficacité.
Exactement.
Assez parlé de Quentin, recentrons-nous sur le sujet en parlant de Manon. Manon, star des réseaux sociaux, où elle talonne désormais en termes de followers sa copine Léna Mafouf. Une publication a récolté pas moins de 48 likes. Cette photo d'une chose ressemblant vaguement à un pan bagna carbonisé avec ce commentaire « Première bouchetta réussie au air fryer », hashtag fierté, hashtag viva Italia, hashtag dolce vita.
On met plus d'hashtag depuis 2010.
Un post qui a immédiatement liké Quentin, victime de l'effet H. Mais tiens, en quoi ça consiste, l'effet H ? À liker tout et n'importe quoi à force de fumer trop de hashish ? À liker ou valider un contenu uniquement parce qu'une majorité de personnes l'a déjà fait avant ? Ou à ressentir une forme de culpabilité à ne pas liker un contenu que la plupart de vos amis ont liké.
C'est.
Ouais, je pense que c'est ça. Bon, moi, je vais mettre B.
Vous dites B, mais vous n'y croyez pas.
Ben non.
Puisqu'effectivement, la réponse était bien tournée. Ça sonnait vrai, mais c'était la bonne réponse. Quentin était la B. Bravo. Ah. Faire comme tout le monde, c'est tout mon Quentin, ça surtout quand ça lui permet de faire avancer sa carrière. D'où ce cœur qu'il met systématiquement, encore aujourd'hui, sous chaque poste de Nagui. La C, se sentir coupable.
On s'est unfollow.
Enfin, c'est vrai?
Il n'a jamais follow.
Ah oui.
mais moi, je l'ai.
Unfollow unilatéral. Ah, il l'a senti, à mon avis, il l'a senti.
Vous l'avez unfollow?
Ah oui, oui.
Oh là, c'est vraiment rageux.
Mais non, je plaisante.
La réponse C qui vous a plu, se sentir coupable de ne pas liker un contenu que tout le monde a liké, ça s'appelle la pression normative émotionnelle. Mais restons sur la joyeuse frégate du gai savoir. Intéressons-nous à celui qui a failli faire carrière dans la marine, Pierre Courade, un échec dont il se console comme il peut en portant des marinières bien ajustées, ce qu'on appelle l'effet Jean-Paul Gaultier. Pierre, dont l'appétit, et je ne parle là que d'alimentation, pour le reste adressez-vous au service clientèle de Grindr, ne cesse de nous étonner. Seulement voilà, après des années d'errance médicale, le diagnostic est tombé, Pierre n'héberge pas, comme on le pensait, un ténia géant, mais se sent obligé de finir une assiette qu'il a payée, même s'il est au bord de l'implosion, car il est victime de cet effet sournois qu'on appelle le syndrome de la dernière bouchée, le syndrome de la grosse pince, ou le biais du coup irrécupérable.
C'est
A.
Vous aimez beaucoup la réponse C aujourd'hui.
Oui,
enfin, c'est vrai. À force de donner la réponse
je tente,
C, va finir par tomber. C'est un bon calcul.
Voilà.
Effectivement, contrairement à ce qu'on avait toujours cru, Pierre n'est pas radin. Il est confronté au biais du coût irrécupérable. Pour lui, chaque centime dépensé compte. Après tout, n'oublions pas qu'il a financé son tour du monde en détournant la quête de Notre-Dame du Rosaire à Lourdes lorsqu'il était enfant de cœur de l'abbé Chubrard.
Bras de coup, c'est ça
le coût. C'est OUT quoi.
Ah oui, vous n'aviez même pas compris la réponse que vous aviez donnée. Je devrais presque vous enlever un point.
C'est fou quand même.
Oui,
c'est un bel aveu.
C'est un aveu. Non, on me signale en régie qu'on vous retire votre point.
Oh, mais c'est une vanne.
Vous n'avez pas compris ce que vous avez dit.
C'était juste pour rigoler. On est une émission d'humour ou quoi?
On est une émission d'humour ou quoi? On rit pas chez nous.
Pour finir ce petit tour d'horizon des effets de groupe à quelques jours de notre déplacement à Rouen et après être allé à Poitiers, vous vous demandez sûrement, et nous aussi d'ailleurs, pourquoi? Sachant que Manon déteste franchir le périphérique et que Cyril a 51 ans mais 87 ressentis depuis qu'il se farcit aussi une chronique à 7h du mat, eh bien l'explication est simple. Si on nous avait demandé individuellement, on aurait refusé ces épuisantes délocalisations. Mais voilà, on prend plus de risques en groupe que tout seul. Et ça, ça porte un nom. Ça s'appelle l'effet cascade, la polarisation de groupe ou le syndrome du casino.
Ah, c'est cascade.
C'est casino ?
Casino, évidemment, parce qu'en casino, on prend des risques.
Je sais pas, en groupe, la table.
C'était hélas la réponse B. Ah, la moins rigolote, finalement, mais parfois la réalité n'est pas drôle. Ouais, la polarisation de groupe, ce phénomène qui explique que quand on est en groupe, on a tendance à prendre des décisions plus extrêmes que si on était seul. Exemple, hier, quand Manon a lancé l'idée d'un séminaire d'équipe au Pinball Arcade Forever de Mérignac. Là, vraiment, il n'y a qu'en groupe. Il n'y a qu'en groupe.
Bien
sûr. Manon remporte malgré tout. Et j'ai envie vraiment d'insister sur le malgré tout, ce quiz.
Mais pourquoi malgré tout
Quand même.
Des témoins qui filment une scène chaotique plutôt que d'aider les victimes. Zoom aujourd'hui sur l'effet bystander ou effet témoin en français. Hélène Romano, psychothérapeute et spécialiste des traumatismes, est avec nous en duplex des studios d'ici Saint-Étienne-Loire. Hélène, on a consacré une émission sur le cortex, au cortex la semaine dernière. Un neurologue nous a expliqué que c'était notamment l'endroit de notre cerveau où se prenaient les décisions. Est-ce que rester passif face à un événement peut s'expliquer aussi d'un point de vue neuronal, pas seulement psychologique?
Oui, le point de vue psychologique et neurologique, c'est vraiment deux niveaux de compréhension qui sont complémentaires pour comprendre les réactions humaines et on ne devrait pas les opposer. Le cortex, c'est la zone du cerveau qui permet de décider. Quand on est face à un événement, on est en stress adapté. Le stress, tout le monde le connaît. Les différentes zones du cerveau fonctionnent plutôt bien et il n'y a pas de court-circuitage entre elles. Par contre, quand on est face à l'horreur, quelque chose qui nous submerge dans nos capacités de compréhension, il y a un court-circuitage qui se passe au niveau psychique et au niveau neuronal, c'est très bien observé dans les imageries qui se font actuellement, où on va avoir une sécrétion très active de certaines hormones comme l'adrénaline, le cortisol, par une petite zone du cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui fait qu'on va être, le cerveau va réagir par l'action et plus tellement par la réflexion. Et ça, ça peut conduire à des réactions en effet totalement incompréhensibles quand on est à distance des faits ou quand on n'est pas nous-mêmes dans les faits.
Et pour revenir sur le rôle des écrans, on a appris aussi l'autre jour que le cortex était le siège des émotions, des sensations. Vous dites qu'utiliser son téléphone portable pour filmer un drame, annihile l'empathie, l'écran fait obstacle à l'autre, à l'altérité, plus rien de ce qui est sensoriel ne passe. Est-ce que ça veut dire qu'on devient des êtres dénués de sentiments et d'émotions à cause de l'écran dans ces moments-là?
Dans ces moments-là, quand il n'y a plus que l'écran, on voit bien à quel point ça désubjectivise, à quel point ça déshumanise. Malheureusement, c'est quelque chose qui est constaté. Alors, on peut espérer que les individus ne vivent pas qu'avec les écrans, mais on voit des enfants qui sont biberonnés aux écrans quasiment H24 de façon très excessive, ne sont plus dans la capacité d'avoir des référentiels sensoriels dans la relation à l'autre.
Et donc ça, c'est ces enfants qui vont.
C'est important.
Ces enfants qui vont devenir grands vont être plus susceptibles de ressentir cet effet bystander que d'anciennes générations ou pas?
C'est une crainte. Moi, je vois l'évolution en tant qu'expert sur les questions de cyberharcèlement, avec des pratiques de harcèlement via les écrans et des violences dans les mots, des violences dans ce qui est projeté à travers des messages qui n'étaient pas du tout les mêmes il y a 4 ou 5 ans. On voit que ça s'aggrave avec des jeunes qui ne sont pas en capacité de comprendre que des mots peuvent blesser, voire conduire au suicide. Il y a eu un suicide récemment d'une jeune fille. Ouais. Parce que il y a cette désinhibition, il y a cette déshumanisation, il y a ce manque d'empathie. Et ce manque de respect de l'autre, ce manque d'altérité qui est majoré par l'usage des écrans. Et quand il n'y a pas l'adulte pour transmettre un minimum ça, en effet, on est plus dans des risques de passage à l'acte de ce type-là.
Vous dites qu'on entre dans un nouveau monde de relationnel. Il y a moi, l'écran et l'autre. Comment déjà on fait pour gérer ces trois entités? Et vous dites aussi que c'est une révolution relationnelle. Est-ce qu'on a besoin de l'écran pour exister?
C'est une bonne question. On peut vivre sans les écrans. Il y a plein de personnes qui vivent sans les écrans. Ça fait partie maintenant de notre monde. Il faut peut-être essayer de l'apprivoiser alors qu'on est actuellement plus contrôlé par les écrans. L'équilibre est peut-être à trouver entre une technologie qui dépasse beaucoup, souvent dans toute la potentialité que ça peut avoir, et d'arriver à reprendre ce contrôle-là, entre autres dans ce qui le peut apporter de très bénéfique dans les relations. Ça permet de rester en contact avec des gens qui sont loin. Ça permet de faire des WhatsApp quand on est séparé, par exemple, avec l'un ou l'autre parent. Il y a des effets très bénéfiques aux écrans. Encore une fois, diaboliser, c'est pas ça qui aidera. Mais il y a probablement à apprivoiser ce que les écrans viennent bouleverser dans notre mode relationnel et à ne pas le subir. J'ai plus l'impression, avec d'autres collègues, qu'on est actuellement dans une phase où on subit plus les écrans qu'on ne les apprivoise.
Vous écoutez France Inter, il est 16h45. L'heure de découvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Des vidéos TikTok aujourd'hui, on les retrouve sous le nom d'expériences sociales et elles sont un véritable carton. Elles sont présentées comme des tests de psychologie ou de comportement humain. Le principe est simple, quelqu'un provoque une situation dans un lieu public, ça peut être un malaise, du harcèlement ou une embrouille. Et le but est de filmer la réaction des gens autour façon caméra cachée pour voir comment ils vont réagir face à une situation de détresse. Parmi les formats les plus populaires, il y a des vidéos où une personne est mise en situation de vulnérabilité. Elle pleure dans la rue, elle demande de l'aide ou elle est agressée verbalement. La caméra cachée tourne pour voir si quelqu'un va oui ou non intervenir pour l'aider.
Excusez-moi, bonjour. Il y a un mec qui n'arrête pas de me suivre depuis tout à l'heure, je le connais pas.
Non, mais pourquoi tu l'as fait ?
Il se passe quoi ? On fait comment ?
On l'entend dans la vidéo, mais les femmes sont particulièrement exposées dans ces formats. Il y en a notamment beaucoup qui concernent les violences conjugales. On voit par exemple un couple qui se balade dans la rue jusqu'au moment où l'homme devient agressif. Des associations féministes ont mis en place un signe qu'il faut faire dans l'espace public si on est une femme victime de violence, replier sa main sur son pouce plusieurs fois. Il est censé alerter les personnes autour sans qu'elles aient besoin de parler. C'est utile de mettre cette technique en avant dans ces vidéos car on se rend compte que peu de personnes connaissent par exemple ce signe. Mais il y a aussi des vidéos pour montrer la réalité d'être une femme dans l'espace public plus en globalité. Une femme par exemple habillée en jogging fait tomber ses cartons dans la rue. Résultat, personne ne s'arrête pour l'aider. Puis elle change de tenue, elle met une jupe et là bizarrement, beaucoup d'hommes prennent le temps de l'aider. Ces vidéos sont souvent présentées comme des messages positifs censés restaurer notre foi en l'humanité. Mais il y a quelque chose dans ce dispositif qui pose problème. La détresse est quand même mise en scène. La réaction des passants est évidemment jugée. Et celles et ceux qui n'interviennent pas deviennent une sorte de figurant involontaire, parfois désignés comme des lâches ou comme des personnes indifférentes dans les commentaires. Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment des expériences scientifiques ni sociologiques. Il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de consentement, pas de prise en compte des raisons pour lesquelles quelqu'un ne peut pas intervenir. On l'a dit, la peur, la sidération, le doute ou tout simplement le fait de ne pas comprendre ce qui est en train de se passer. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont filmés et ça aussi, ça pose problème, notamment quand une vidéo devient virale sur TikTok. Où sont les limites du voyeurisme, même quand il se justifie par de l'expérimentation?
Merci Manon. Hélène Romano, ce genre de format, ça a du bon ou il faut s'en méfier?
Ça vient d'être dit très justement, quand on en fait un spectacle, alors il y a certaines campagnes de prévention qui mettent en scène des acteurs, ce sont des acteurs pour ce type de scène, c'est pas du tout pareil que de prendre monsieur, madame, tout le monde, qui vont se retrouver instrumentalisés, alors on pourrait dire même pour la bonne cause, l'instrumentalisation de l'autre, ça n'a rien d'humanisant. Et si on transforme quelque chose qui se veut préventif en une spectacularisation de la détresse humaine, ça va probablement entraîner tout le contraire, parce que les gens qui peuvent être en état de stress, comme on l'a décrit au cours de l'émission, ne pas réagir de façon adaptée, sur les réseaux sociaux vont probablement devenir des cibles d'agressions, d'insultes, de menaces, et c'est vraiment pas l'objet.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, France Inter crève l'écran.
Personne n'est à l'abri du bystander effect, l'effet témoin. Nous-mêmes ici à Zoom Zoom, on en est victime chaque midi quand Pierre Courade prend la parole pour dire généralement quelque chose d'absurde et qu'il a déjà répété 100 fois comme « Mais arrêtez de vous plaindre que vous n'avez pas eu de neige dans les Alpes, si vous voulez de la neige, venez dans les Pyrénées
».
Chacun a envie d'intervenir, chacun a envie de taper du poing sur la table en lançant un formidable « Ta gueule, Courade ». Mais voilà, comme on est plusieurs à entendre ces insanités et qu'on mise tous sur le fait que c'est un de nos collègues qui va intervenir, finalement personne n'intervient. Voilà résumé le bystander effect en moins de 30 secondes chrono, une prouesse dont serait bien incapable Pierre qui va maintenant vous résumer ça en une minute chrono. Non,
mais vous l'avez très bien résumé, oui, Mathieu, voilà. D'autant que l'effet témoin concerne une victime. Vous convenez donc que je suis une victime dans cette histoire.
Allez.
L'effet témoin ou bystander dans la langue de Trump, c'est un phénomène psychologique et neurologique que nous a expliqué notre invitée Hélène Romano, psychothérapeute et spécialiste des traumatismes. Pour elle, cet effet témoin, c'est une effraction psychique, une forme de blessure qui nous rend passifs à l'insu de notre plein gré. C'est pour cette raison qu'on se retrouve incapable de réagir face à une situation violente. On peut se cacher derrière le groupe pour se sentir moins concerné ou derrière son téléphone portable. Cet automatisme de prendre son téléphone permet d'ailleurs, d'après Hélène Romano, de se protéger de l'horreur que l'on voit sous nos yeux. On se réapproprie la réalité qui nous paraît hallucinante, inintelligible. Poster ensuite ces vidéos répond à un autre niveau psychique, transformer le drame en téléphone télé-réalité. On touche là au voyeurisme. L'écran fait écran à l'empathie. On l'a vu à Cran Montana. On a aussi vu l'autre version de cette conduite automatique, des gens qui ont bravé le danger littéralement sans réfléchir pour sauver des victimes. Comme quoi, et merci Hélène Romano de l'avoir précisé, il est trop facile de s'en prendre aux jeunes. Chaque être humain réagit différemment et personne n'est parfait. Enfin, certains le sont quand même un peu plus que d'autres.
Merci beaucoup Pierre. Et selon la météo des neiges, toujours rien à la Mongie.
C'est pas vrai, il y a au moins un mètre en bas des pistes.
Ah, rien. Un mètre. Un mètre, comme, oui.
Comme vous faites unité de mesure, j'imagine.
Oh. Absolument.
Comme les apôtres attablés avec Jésus, nous sommes tous témoins de sa grandeur chaque mercredi. Voici un lancement modeste pour Harold Barbet.
Je dois vous faire une confession, je pourrais être poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Dans la salle d'attente chez l'ophtalmologue, j'ai vu une pauvre femme prise au piège face à une autre qui lui montrait les vidéos du spectacle de la kermesse de l'école de son enfant. Je pouvais lire la détresse dans ses yeux et son regard qui criait « Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous !» Ça fait beaucoup quand tu souffres déjà d'une kératite. J'aurais pu intervenir, prétexter de demander un renseignement pour aider cette pauvre bougresse à s'échapper face au vide proposé par Stéphanie. Mais je n'ai rien fait. Alors, bystander effect ou pure lâcheté, je l'ai observé se liquéfier, se vider de son âme face à celle qui affirmait suffisamment fort « Tu as vu son costume de tulipe ? C'est moi qui l'ai fait !» Dans le seul but que sa victime la congratule et lui affirme qu'elle est vraiment une mère exceptionnelle, alors qu'au fond d'elle, malgré 20 ans d'amitié, elle la hait. D'ailleurs, on avait accusé à tort le pauvre René, mais c'est bien elle qui avait déféqué dans le coffre du 3008 de Stéphanie à Pâques. Visiblement, Stéphanie filme tout, elle met un écran entre elle et sa vie de merde. Au lieu de choisir de se pendre dans le sous-sol entre la machine à laver et l'établi de Damien, elle filme sa vie et la montre à tout le monde comme pour être rassurée. Ça va, hein, c'est pas si nul. Arrêtez de filmer vos gamins pendant leur spectacle. Imaginez ce que eux, ils voient. Ils se préparent, ils répètent toute l'année, ils passent leur tête derrière le rideau pour voir s'ils aperçoivent papa et maman. Ta mère est là, Simon? Oh oui, je la vois, elle est sur son portable. Et ils vous voient tous sur vos téléphones, en train de faire je sais pas quoi. Tu es à la kermesse, Stéphanie? Ma femme n'est pas là. On se retrouve derrière le chamboule-tout. Ah oui, Greg, chamboule-moi la schneck. Les enfants font leur spectacle uniquement devant des gens qui brandissent des téléphones devant eux. Ils voient que des moitiés d'œil. Ils recherchent la fierté dans le regard de leurs parents et se retrouvent à chanter du Charles Trenet devant une armée de cyclopes. Le temps passe trop vite. Profitez de vos enfants avant qu'ils grandissent et ne vous méprisent. Dans 5 ans, t'entendras Stéphanie. On les voit pas grandir. Bah évidemment que tu l'as pas vu grandir. Pendant qu'il essayait de te montrer ses dessins, t'as passé ton temps sur ton portable à essayer de revendre tes pâtes au gaz sur Vinted, connasse. C'est la même chose pour les gens qui filment pendant les concerts. D'ailleurs, je voudrais profiter de cette tribune pour dire aux gens qui filment avec leur portable pendant un concert à quel point je les hais. Je vous hais de tout mon être, de toute mon âme. Vous avez atteint le niveau de haine que j'ai pour les démarcheurs associatifs en Kawaii. C'est dire. L'autre fois, j'étais au concert de Korn, meilleur groupe du monde, dans la fosse. Et un mec devant moi brandit son portable pour filmer. Je voyais plus rien. Et pour avoir une meilleure emprise sur son smartphone, il a relâché son étui à clapet porte-carte de ringard. Donc non seulement son téléphone m'empêchait de voir, mais en plus je me mangeais sa vieille gueule de con en photo sur sa carte vitale. C'est du spectacle vivant, ça veut dire que ça se vit. Utilisez vos yeux pour voir, pas pour nous adresser des regards ahuris quand on vous demande de ranger vos téléphones.
J'ai payé ma place.
Et maintenant on diffuse des concerts dans des salles de cinéma. Ça me rend dingue, ça me rend dingue. Et bah devinez quoi? Là encore, il y a des gens qui filment. Ils filment. Alors, les gens qui filment un concert déjà diffusé dans un cinéma. En vrai, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Quelqu'un a une idée qui n'impliquerait pas la déportation sur une île peuplée de cannibales? C'est les poupées russes de la débilité. Genre, filmer un écran, c'est comme boire une bière sans alcool ou se masturber en pensant à sa femme. Ça n'a aucun intérêt. Dites-vous bien que parfois, ne plus avoir de batterie est la meilleure chose qui pourrait vous arriver dans la vie. Et ça, ça valait bien une petite intervention.
Merci Harold, et on embrasse votre femme évidemment, qui écoute cette chronique et qui comprend mieux. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom et en tournée le 13 février à Besançon, le 14 à Caudry, le 26 mars à Paris au Point Virgule, ça sera la seule date parisienne, il faut vraiment s'y ruer. Tiquez sur haroldbarbet.com et surtout ne filmez pas le spectacle d'Harold, sinon il vous fout dehors, tout simplement. Merci beaucoup Hélène Romano de nous avoir éclairé sur ce phénomène bystander, et pour aller plus loin, je signale le titre de votre livre paru il y a quelques années chez Odile Jacob, Quand la vie fait mal aux enfants. Un grand merci également aux équipes d'ICI Saint-Étienne-Loire qui vous ont accueillis dans leur studio. Zoom Zoom Zen.